Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Big Brother a une adresse. C'est dans un périmètre de 50 km autour de Washington que les États-Unis concentrent leur appareil de surveillance mondiale. Ce que mon invité appelle un pouvoir topologique fort qui réunit les 18 agences de renseignement et de très nombreuses sociétés privées. Jonathan Guiffard est expert associé à l'Institut Montaigne et chercheur à l'Institut français de géopolitique. Il vient de publier un article sur ce sujet dans la revue Études françaises de renseignement et de cyber, publié par les presses universitaires de France. Bonjour Jonathan Guiffard.
Bonjour.
C'est historique, cette concentration. On va voir derrière vous une image, un plan où on voit l'ensemble des agences de renseignement américaines autour de Washington. Historique ?
Alors c'est effectivement historique, ça date du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ouais. Les années 40-50, où l'appareil de sécurité nationale américaine se met à construire un gros dispositif. De nombreuses agences de renseignement, il y en a aujourd'hui 18, bien entendu, ça n'a pas commencé à 18. Et tout ça autour de Washington, c'est le début de la guerre froide, et donc c'est le contexte parfait pour ce développement.
Lien entre le politique et donc les services, c'était ça ?
Oui, exactement. C'est la volonté du gouvernement américain d'avoir à disposition un appareil de surveillance, un appareil de collecte de renseignement, et plus généralement un appareil même militaire, important et pilotable depuis la région de Washington, avec cette spécificité, en tout cas... C'est une rumeur, mais j'y crois bien volontiers, que ces agences ont été mises un peu plus loin de Washington, dans ce périmètre des 50 km, au cas où une frappe nucléaire soviétique devait toucher la Maison-Blanche ou Washington.
Donc concentration, trois États, Washington DC, le Maryland et la Virginie, des centaines de milliers d'emplois et un budget qui dépasse les 100 milliards de dollars par an, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est en fait une région... vous avez centré autour donc, du pouvoir politique à Washington, D.C. Vous avez d'un côté la Virginie, où vous avez une région qui est surnommée Internet Alley, ouais. Qui est une région qui concentre beaucoup d'entreprises, c'est vrai, mais qui concentre aussi beaucoup d'infrastructures d'Internet. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Internet Alley. Vous avez beaucoup d'entreprises de data centers, ouais. Vous avez des backbones de l'Internet, vous avez même des serveurs racines d'Internet.
Mmh. Ah bah oui.
Et vous avez de l'autre côté le Maryland où il y a Formid qui est le lieu d'implantation de la NSA, le service de renseignement technique américain. Et autour de cette implantation, du coup, est apparu ce qui est aujourd'hui surnommé Cyber Valley, c'est-à-dire une concentration de nombreuses entreprises de toutes sortes, mais du domaine cyber. Mmh. Des prestataires de services aux infrastructures, aux outils d'exploitation, par exemple, dans le domaine cyber.
Ce que vous appelez un pouvoir topologique fort.
Oui, alors ce qu'on appelle un pouvoir topologique en géopolitique, ma discipline, c'est le fait que depuis ce lieu assez concentré, le pouvoir américain a un impact sur la topologie d'Internet, donc sur la géographie générale d'Internet, de ses infrastructures, et employant beaucoup d'entreprises ayant la main sur les protocoles, ayant la main sur les infrastructures d'Internet, le pouvoir politique américain est susceptible d'influencer beaucoup d'acteurs dans le monde.
Donc un pouvoir extraterritorial depuis cette concentration de Washington.
Bien, une forme de pouvoir extraterritorial, le fait que nombreux États étrangers dépendent en fait de la technologie américaine, soit des infrastructures, soit des logiciels, de manière générale même des protocoles qui organisent par exemple le routage d'Internet dans le monde. Le fait que une très grande majorité de ces technologies soient américaines fait que beaucoup d'acteurs internationaux en dépendent. À ce titre-là, il y a un pouvoir topologique, mais aussi effectivement un pouvoir juridique dès lors que le cadre juridique américain s'applique. Donc, par exemple, le cadre juridique américain s'applique à Washington. Toutes les données qui sont présentes dans les data centers, quand bien même ce sont des données Facebook, les vôtres, les miennes, de gens, j'en sais rien, en Chine ou en Inde, elles sont sous un contrôle légal américain. Mais en plus, au niveau extraterritorial, vous avez le Cloud Act, qui est une
2018.
Loi qui a été mise exactement en 2018 par l'administration Trump, qui donne, non pas un droit de regard, mais qui, en fait, permet de contraindre les entreprises américaines à donner à la justice américaine les données, si c'est justifié par un mandat, si c'est justifié par une enquête, des données qui seraient par exemple localisées en dehors des États-Unis. Mmh. Par exemple sur des serveurs ou des data centers de Facebook en Europe, par exemple, ça pourrait très bien, le Cloud Act pourrait s'appliquer.
Je voudrais revenir sur l'anecdote, le fait que on a élargi autour de Washington de peur d'une frappe nucléaire soviétique. Quand même, une telle concentration, quand on pense aux attaques du 11 septembre, c'est quand même dangereux, non, une telle concentration de services de sécurité et de renseignement.
Alors oui et non. C'est-à-dire que c'est peut-être dangereux d'un point de vue militaire, mais ouais. Les États-Unis, depuis Pearl Harbor, on va dire, et même Pearl Harbor, c'était Hawaï, les États-Unis n'ont jamais été militairement mis en difficulté ou menacé très directement. D'accord. Sur leur sol.
Ouais.
Donc à ce titre-là, cette concentration ne pose pas vraiment un problème.
C'est ce qu'ils croyaient jusqu'au 11 septembre 2001.
Oui, mais au 11 septembre, du coup, des attaques des deux tours sont un peu différentes que l'ensemble
du
dispositif. Et du Pentagone, c'est vrai. Ouais. De l'ensemble du dispositif. Maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent jouer. Par exemple, il faut savoir que dans le Maryland, la NSA est plus généralement Formid et le premier consommateur d'électricité du Maryland. Ouais. Il y a eu plusieurs fois des moments où les opérateurs d'électricité, les fournisseurs,
ne pouvaient plus
fournir au niveau de la demande. Et donc, vous avez aussi des risques techniques qui existent à cette concentration.
Ouais.
Mais de manière générale, les risques sont plutôt limités.
Donc, concurrence avec la Californie, avec
Silicon
Valley ou pas ?
C'est une excellente remarque parce que la Silicon Valley, tout le monde la connaît.
Ouais.
Tout le monde la connaît. Pour son rôle dans le déploiement et le développement d'Internet civil, commercial, dans la vie de tous les jours. Mais une grande différence qu'il y a entre la Silicon Valley et cette région autour de Washington, c'est que la région autour de Washington est très liée au complexe de sécurité nationale et de fait n'a jamais connu la crise. C'est typiquement une région qui a toujours eu des subsides publics. Et donc, toutes les entreprises qui sont...
100 milliards de budget, quand nous, nos services, c'est 3 milliards d'euros, on voit la différence.
Exactement. En fait, vous avez tout un système assez malin qui mêle recherche scientifique fondamentale, recherche scientifique privée. Donc, tout un système de laboratoires et d'universités, mais aussi d'entreprises et l'État. Et cette espèce de triptyque permet de faire énormément de développement technologique.
Donc beaucoup d'innovation. Et c'est le cas. Il y a eu beaucoup d'innovation à partir.
Énormément d'innovation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la construction, ce que j'explique aussi dans ce papier, ce qui est bien connu des historiens de l'informatique, la construction d'Internet a démarré entre les universités, certaines universités américaines et l'État.
Ouais.
Mais au même moment, l'État a utilisé ces technologies pour développer un réseau militaire.
ARPANET.
Voilà. ARPANET étant le réseau Internet général et MILNET étant sa version militaire, mais utilisant les mêmes technologies. Et tout ça a eu lieu dans cette zone de Washington. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mêmes acteurs ont toujours travaillé en parallèle la dimension privée, publique, commerciale et scientifique fondamentale et la dimension de sécurité nationale. Ce qui donne un avantage stratégique assez important aux États-Unis aujourd'hui, qui a quelque part toujours un temps d'avance sur ces technologies qu'ils ont eux-mêmes développées.
Donc ça marche, ce triptyque État, entreprise, université, centre de recherche.
En tout cas, alors c'est très financé par le public, donc c'est une grande différence fondamentale avec les pays européens, c'est le volume d'argent public qui est mis dans la recherche fondamentale ou même en soutien à la recherche privée par l'État américain, enfin l'État états-unien. Mais en plus de ça, ça marche parce que vous avez vraiment trois cultures différentes, une culture scientifique, une culture marché, une culture de l'entreprise, de l'innovation de marché
une culture
publique de la sécurité qui s'allie et qui du coup effectivement font beaucoup de programmes. Vous avez une agence qui s'appelle donc la DARPA qui est en fait l'équivalent de la Direction Générale de l'Armement Française mais qui ne s'organise pas du tout de la même manière et qui est une sorte d'agence de l'innovation de sécurité nationale qui fait de nombreux programmes de recherche et ces programmes souvent se transforment assez rapidement ou sur un temps moyen on va dire en technologie.
Ce que dit votre article aussi, c'est que très gros succès donc sur cette partie-là, on est d'accord, sécurité et défense. Mais alors, sur la sécurité civile, là, gros retard. Pourquoi ?
Eh bien,
la cybersécurité
civile. Pourquoi ? Il y a plusieurs facteurs, mais vous avez effectivement, à la différence par exemple de la France ou de l'Europe de manière générale, vous avez une différence assez fondamentale entre l'avantage stratégique qu'ont les États-Unis dans le domaine militaire, dans le domaine renseignement et dans le domaine de la sécurité nationale, d'une part, et un certain retard, en tout cas, une prise en compte un peu tardive du sujet des cyberattaques et plus généralement de la vulnérabilité cyber dans le domaine économique, dans le domaine privé. Un bon exemple, c'est que vous avez l'US Cyber Command, donc le commandement cyber militaire qui est créé en 2010, alors que vous avez l'agence civile du cyber qui s'appelle la CISA, qui est créée en 2018. C'est assez tard.
Ouais.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les spécialistes du cyber dans le domaine de la sécurité nationale pointe les risques cyber depuis les années 90-2000, mais le politique a du mal à le prendre en compte. Ce qui accélère beaucoup les choses, c'est une succession d'attaques dans les années 2010. C'est aussi 2016 et l'ingérence russe dans les élections qui fait prendre conscience au grand public et aussi du coup aux politiques qui ne connaissaient pas le sujet des risques associés aussi dans le domaine cyber et dans le domaine informationnel. Et vous avez aussi un certain nombre d'attaques qui marquent de plus en plus d'attaques contre les infrastructures comme sur des aéroports ou Colonial Pipeline en 2021 sur l'énergie. Bon, et ben ça a permis de faire avancer un peu rapidement. Les facteurs, c'est que très clairement, une grosse partie de l'argent public va dans le domaine militaire plutôt que dans le domaine civil. Mmh. Et vous avez une difficulté à faire prendre en compte les risques par les entreprises. Progressivement, l'État le comprend et maintenant met en place des stratégies pour les soutenir, pour leur fournir de l'information, pour les aider sur les vulnérabilités cyber, pour les aider sur les risques.
Stratégie et argent ou pas ?
Stratégie et argent. Ouais. Argent, clairement argent sur une partie, on va dire conseil, une partie aide aux entreprises conseil. Par contre, pas argent pour mettre en place toutes ces mesures de cybersécurité. Et d'ailleurs, c'est devenu un sujet pour l'administration Biden, qui a fait une stratégie nationale de cybersécurité en mars 2023. Et dans cette stratégie, un point majeur était de dire il faut contraindre les grandes entreprises du cyber à faire des produits protégés.
Merci beaucoup, Jonathan Guifard, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.